Pascal Cévé.
Oh, aujourd'hui, ben, si vous n'êtes pas encore sorti, il va falloir mettre sa petite laine, ouais, parce que ben, dehors, c'est 14 degrés. On est le 19 août. Je m'attendais à ce que Mère Nature ait un petit peu plus de complaisance, un peu moins de, un peu moins de froid là, sur Québec, du soleil, une chaleur quelconque. Mais c'est pas vraiment le cas et ça prend du temps avant de se réchauffer. On va pas se plaindre, en fait, on va penser aux travailleurs de la construction qui n'ont pas 34 degrés avec un taux d'humidité qui fait monter ça à 40. On va être content pour eux. Alternance soleil-nuage, c'est ce qu'on a sur Québec. Bienvenue. Bienvenue dans leur CV. On s'installe tranquillement ensemble. Et tranquillement, c'est aussi pour la météo. Ça va monter jusqu'à 21 aujourd'hui, mais il n'y a rien de clair, net et précis en ce qui concerne le fait que vous allez peut-être pouvoir profiter de journées d'été aujourd'hui et demain. Par contre, malgré la possibilité d'averse pour la journée de mercredi, soit pour demain, jeudi, vendredi, Ah là, par contre, on retrouve notre soleil du mois d'août avec 26 et 27 degrés pour respectivement jeudi, vendredi. Salut tout le monde! Salut au 88-971-1021. Je vous vois vos salutations. C'est toujours le fun. C'est une émission, en fait, qu'on partage ensemble. Puis, ben, je suis très, très contente de savoir que vous êtes bien en place. Même chose pour le Twitch, twitch.tv/BLVD/FM. La gang est là. Je vous salue tous et chacun d'entre vous. Aujourd'hui à l'émission, j'ai eu un flash. Ce matin, je me réveille puis je vois qu'on a une nouvelle encore sur Lise Thibault. Bon, entre ce qui se passe du côté d'Air Canada, donc l'entente conclue avec les agents de bord, Air Canada qui reprend graduellement ses vols, ça a été annoncé ce matin parce que hier c'était un brouhaha, on les obligeait à aller travailler, finalement, ils étaient encore revendicateurs, les agents de bord. Hier, j'étais allée chercher quelqu'un à l'aéroport, puis justement, ça manifestait ici à Jean-Lesage, là. Il y avait des gens avec des pancartes, ça criait, puis ils s'attendaient à ce que les gens klaxonnent en signe d'appui à leur grève. On le sait, ces agents de bord-là qui veulent être rémunérés pour leur travail, finalement, pour les heures qu'ils font à l'aéroport et pas juste quand l'avion est en vol. Mais hier soir, c'était pas sûr là, si on allait avoir à nouveau du service, parce que plusieurs assumaient le fait qu'il allait peut-être avoir des amendes de 1 000 par jour pour les agents de bord qui continuaient de faire la grève et 100 000 par jour pour le syndicat qui les encourageait. Mais là, ce matin, relance progressive des opérations. C'est vraiment annoncé. Il y a eu 3 jours pour cette interruption complète de vol due au conflit de travail que l'on connaît. Et là, reprise qui fait suite à un accord qui a été conclu entre la compagnie aérienne et le syndicat, sous supervision d'un médiateur qui va passer, somme toute, ish à l'histoire, William Kaplan, parce que ça a dû pas être très facile, assez ardu, s'entendre avec le syndicat, les 10 000 agents de bord et Air Canada. Là, je veux dire, si vous regardez les messages, les commentaires qui passent sur les réseaux sociaux, tout le monde a une critique à faire envers Air Canada et des gens qui disent boycott le plus possible si vous êtes capable de ne pas faire affaire avec cette entreprise-là. Air Canada, l'entité, là, donc le transporteur, et pas les agents de bord, parce que ces gens qui écrivent ça défendent les agents de bord et tape sur la tête de l'entreprise qui a mal géré sa reprise de service et surtout qui ne payait pas ses agents. C'est particulier, j'essaie de parler avec des porte-paroles de l'aéroport de Québec depuis des jours maintenant. J'estime souvent ces porte-paroles-là qui vont au bat, comme on dit dans les médias, qui répondent oui, bien souvent, mais là, ça fait plusieurs jours qu'on répond non. Ce que je me suis fait dire, c'est qu'il n'y a rien de nouveau actuellement en ce qui concerne l'aéroport ici qui dessert à 50% environ des vols avec Air Canada. Si vous posez des questions, ben, j'ai pas de réponse pour vous pour l'aéroport. Ils attendent de voir les prochaines étapes du transporteur. Ils n'ont rien reçu comme info encore et c'est ce que je viens de recevoir là, dans les 2 dernières minutes. Là, vous me dites, tu checkes ton cell en nous parlant. Ben oui, j'ai pas le choix. Ça fait partie de ça, avoir une émission qui a de l'actualité dedans. Et là, je m'en allais en vous nommant ces nouvelles-là qui prennent d'assaut nos quotidiens. Donc, le projet informatique en santé aussi, qui cache un coût d'exploitation de 1,2 milliard de dollars. Santé Québec, le Conseil du Trésor, qui refusait de donner les coûts complets de ce projet-là et qui est critiqué. Puis, la victoire de Pierre Poilievre dans Battle River Crawford, pardon. Donc, chef conservateur qui a remporté son élection partielle avec plus de... Il récoltait 80 % ouais, des suffrages. Mais moi, c'est les voix qui m'ont impressionné. 40 548 voix. C'est énorme pour le chef du Parti conservateur du Canada, un dépouillement qui s'est fait assez rapidement. En fait, les bureaux de vote qui ont été dépouillés, il en reste un peu quand même. Là, mais il y avait, vous rappelez-vous, plus de 200 candidats là, dans cette circonscription-là. C'était comme un putsch. On voulait diviser tous les votes pour ne pas le faire passer. On a l'impression que c'est ce qui se passait du côté de Battle River Crowfoot en Alberta. Mais il est passé. Il ira encore à la Chambre des communes. Là, je regarde toutes ces nouvelles-là aujourd'hui. Puis il y en a une qui a attiré mon attention. Lise Thibault. Vous vous rappelez de Lise Thibault, ancienne lieutenant-gouverneur du Québec, qui a fait énormément jaser pour ses dépenses astronomiques, slash, sur votre dos, sur le dos des contribuables. Il y a eu un recours en cours et finalement, ben oui, accusation, fraude, abus de confiance. Rappelez-vous, en 2014, c'est l'ancienne représentante de la Reine. Elle avait été condamnée à 18 mois de prison pour fraude, abus de confiance. Puis ça, c'était pour ses allocations de dépenses entre 1997 et 2007. Là, je me dis, hey, c'est vrai, hein, cette histoire-là a quand même fait en sorte qu'on a eu beaucoup maintenant de critiques sur ces dirigeants-là qui ont un genre de poste qu'on ne comprend pas toujours, la teneur, puis l'importance, puis les tâches associées à ça. Lieutenant-gouverneur, qu'est-ce que ça fait à part manger notre argent? Chose certaine, c'est revenu dans l'actualité. Et il y a le mari de Lise Thibault qui a fait l'actualité aujourd'hui. Donc, lui a réussi à vendre leur maison pour rembourser les créanciers. C'est ce qu'a appris le bureau d'enquête de Québecor. Résidence construite en 1983, vendue 500 000 en décembre dernier. C'était du côté des Laurentides. On l'évaluait à 861 000. On l'a laissé partir à 500 000. Transaction vient de mettre un terme officiel à cette saga-là. Il y a près de 20 ans, on commençait à en parler. Ça a donné le pouls un peu sur, voyons, qu'est-ce que ça mange en hiver? Pourquoi on a ça? Ça coûte donc bien cher. On a donc bien des demandes particulières de ces gens-là qui sont en poste. Puis après ça, bien, vous avez vu des critiques et des critiques. Peu importe qui continuait à avoir le rôle de lieutenant-gouverneur ou lieutenant-gouverneur, on scrutait à la loupe les dépenses, puis on essaie de comprendre si ça valait la peine. Mais je me suis souvenue d'un collègue, un ex-collègue, qui avait mis son nez au bon endroit il y a quelques années. C'est Mathieu Boivin. Mathieu Boivin, on va lui parler dans quelques instants, puis il va nous récapituler toute cette histoire-là. Il est encore journaliste, il est du côté de Nouveau Info. Puis on s'est jasé ce matin, puis c'est encore fascinant, cette histoire-là. Vous allez pouvoir dire plein de choses au 88-971-1021. Ça va nous faire plaisir de jaser de Lise Thibault, puis de ce rôle-là, ici au Québec, entre autres, à savoir, ça vaut-tu vraiment la peine? Même au Canada, il y a un rôle similaire, puis on se pose vraiment des questions. Manquez pas ça, un journaliste coloré que j'apprécie foncièrement qui va être avec nous dans un instant, Jay Scott, en attendant, un peu trop vite à Boulevard 102.1, dans votre émission, leur CV.
Quand je réfléchis, j'ai six cerveaux, en fait.
Leur CV avec Pascal CV.
Boulevard 102.1.
Je pense que si vous aimez les genres de coyotes puants de l'actualité qui réussissent à aller sniffer un peu où ça sent mauvais, puis de réussir à trouver ce qu'il faut exactement au moment où il le faut, je vous explique. En 2006, ce journaliste-là qu'on a au bout du fil décidait de se lever, prendre son café le matin, puis dire « Bon, sur quoi j'enquête aujourd'hui? » Farfouille, 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 et le nom de Lise Thibault tombe entre ses mains. Il connaissait déjà cette femme-là, lieutenante-gouverneur, une femme quand même qui avait fait jaser énormément au Québec par son statut. Et en farfouillant, bien, il s'est rendu compte que c'était un petit peu moins... Le lilas là, que ça sentait. On avait l'impression qu'il y avait eu beaucoup d'argent dépensé, mais dans quel profit, dans quelle mesure, puis est-ce que ça correspondait justement à une bonne utilisation des fonds publics? La réponse au bout du compte, ça a été non, vous le savez, on a été en cours par rapport à Lise Thibault, mais on va l'intégrer à la discussion parce que nul autre que Mathieu Boivin, journaliste à Nouveau Info et ancien correspondant parlementaire au Journal de Montréal, va être la meilleure personne pour nous en jaser. Salut Mathieu!
Allô Pascal, salut les auditeurs.
Un petit clin d'œil au fait qu'on a déjà travaillé ensemble, on se connaît très très
bien. Oui, des vieux complices.
Des vieux. des vieux complices à justement aller sniffer ce qui sent un peu moins bon là, en termes de politique, mais de tout et de rien. Mathieu, mm-hmm. ça fait des années que tu fais ce métier-là, tu as fait de l'enquête énormément et à un moment donné, tu as réussi à dépoussiérer, du moins creuser, pour trouver l'un des plus grands scandales qu'on a eu au Québec dans les dernières années.
Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais à l'Assemblée nationale comme correspondant parlementaire, ça se racontait hein, dans les couloirs. Il y a beaucoup de mémérages, comme on dit. Il y a beaucoup de monde qui disait que Mme Thibault, ah mon Dieu, elle présentait l'image presque d'une femme sainte, hein, très empathique, toujours là pour les autres, mais que dans le privé, c'était une toute autre personne. Mais ça restait du bavardage. À un moment donné, j'ai dit, ben, je vais toujours bien vérifier. J'ai fait une demande d'accès à l'information chez ceux qui, je pensais à ce moment-là, étaient ceux qui payaient ces dépenses, le gouvernement du Québec. On répond à ma demande d'accès à l'information du côté du gouvernement du Québec. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Il y a des dépenses pour des fleurs, pour des réceptions au cabinet du lieutenant-gouverneur, mais pas des choses scandaleuses. J'écris un texte pour rapporter ça. Et là, c'est, je dirais que c'est là le moment zéro de l'histoire, il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit « Monsieur Boivin, vous cherchez pas au bon endroit. C'est pas du côté du gouvernement du Québec que Mme Thibault a se fait rembourser les dépenses les plus litigieuses. C'est au gouvernement fédéral. Faites une demande d'accès au fédéral, vous allez voir ce qui va arriver. »
Dans ce temps-là, Mathieu Évidemment, Boivin, quand tu es journaliste, là, qui te flaire là-dessus?
Ben, je peux pas dire que personne m'a flairé là-dessus. Comme je te dis, Pascal, je répondais à une certaine rumeur des journalistes, des
Mais
politiciens.
Celle pour le fédéral. T'sais, en lisant tes trucs, en entendant des choses, c'est des gens qui parlent à l'interne, des fois, dans des institutions.
Oui, exact. Pour la première demande d'accès que j'ai fait au gouvernement provincial, et là, je reçois ça, c'est pas super concluant. J'écris un article qui est loin d'être scandaleux. Et là, quelqu'un m'appelle, la bonne personne, la source qui m'a aidé à ce moment-là, puis plusieurs fois ensuite, pour me pister, pour me dire c'est au fédéral qui est le scandale. Et là, cette personne-là, je serai pas plus spécifique que ça pour par protection des gens qui me renseignent, mais me dit, vous allez voir, c'est là qu'on joue sur les règles, qu'on joue sur les zones grises pour se faire rembourser des choses qu'on devrait jamais se faire rembourser. Alors, je suis le conseil de ma source, je fais une demande d'accès au fédéral, et là, arrive le coffre au trésor, ni plus ni moins, parce que j'en ai jamais eu d'aussi volumineuse réponse à une demande d'accès à l'information. C'est toute une caisse de documents qu'on m'envoie. Des échanges courriels entre des fonctionnaires qui, effectivement, lèvent le drapeau rouge à plusieurs reprises. Des dépenses, des factures de cartes de crédit, des factures de fournisseurs, des choses vraiment aberrantes.
Est-ce que tu es capable de le relier à Mme Thibault à ce moment-là où il y a des choses caviardées? Parce qu'on sait, en 2025, faire une demande d'accès à l'information, ça n'a rien à voir avec il y a autrefois. Là.
Bien, puis là, on arrive dans un autre aspect intéressant. C'est que moi, ma perception, c'est qu'il y a des gens au fédéral, des fonctionnaires qui étaient très contents de ma demande. Très contents. On m'a mis là-dedans des choses qu'on n'obtient habituellement jamais comme journaliste. Tu fais une demande d'accès à l'information, l'organisation va t'en donner le moins possible puis va caviarder ce qui est sensible. Là, au contraire, on m'a mis des échanges de courriels avec des notes manuscrites. Jamais, jamais on ne donne ça aux journalistes. Alors moi, mon hypothèse, c'est qu'il y a des gens au fédéral qui étaient très contents qu'un journaliste pose des questions sur Mme Thibault. Et j'ai compris ensuite pourquoi. C'est qu'on m'a dit que Mme Thibault, encore une fois, l'espèce de entre guillemets, visage à deux faces, très gentil en public, mais plus difficile en privé, c'est qu'elle faisait, entre guillemets, chanter les politiciens. Elle disait... Vous m'avez toujours remboursé ces dépenses-là dans le passé, et là, vous changez les règles, vous questionnez mes dépenses. Elle dit, si vous me remboursez pas, je vais vous dénoncer, on va avoir une bataille sur la place publique, puis vous allez avoir l'air de quelqu'un qui s'en prend à une pauvre vieille handicapée. Ça m'a été rapporté par des politiciens de haut niveau, qui ne le diront pas publiquement, mais qui me l'ont confié après que j'ai commencé à sortir les histoires là-dessus. Alors, Mme Thibault, son modus operandi, c'est ça. Elle jouait sur des lignes grises. Elle se faisait rembourser des dépenses, puis après ça, quand les fonctionnaires fédéraux qui levaient les drapeaux rouges, je vous le dis, je l'ai la boîte, là. Il y avait plein de drapeaux rouges là-dedans, mais les fonctionnaires se faisaient dire probablement, là, je suis obligé de parler au conditionnel, ils devaient probablement se faire dire « Remboursez-la, je veux pas avoir de trouble avec la lieutenant-gouverneure du Québec, qui est très aimée dans l'opinion publique, je veux pas faire cette bataille-là. » Alors, quand un journaliste arrive, fait son travail, ah ben là, les fonctionnaires sont contents. Lui, il veut le savoir, mais on va y en donner plus que le client demande. Et est-ce que j'en ai eu? Oui, Pascal.
Est-ce que tu te rappelles de choses que tu as lues dans le temps, des dépenses faramineuses ou encore qui faisaient aucun sapristi de sens pour une lieutenant-gouverneur d'acheter ça?
Il y en a plein. Il y en a plein, mais ce matin, la raison pour laquelle tu me parles, c'est parce que Revenu Québec a forcé son conjoint Réal Cloutier à vendre la fameuse maison des Laurentides qui était la sienne.
Exact.
Quand Mme Thibault s'est fait accuser et trouver coupable d'avoir effectivement utilisé à son profit des sommes de plusieurs centaines de milliers de dollars, bien, l'État a voulu se faire rembourser. Alors là, elle a tout de suite vendu sa maison à son conjoint pour ne pas se la faire saisir. Le problème, c'est que le conjoint, lui aussi, devait de l'argent. Alors là, puis c'est la nouvelle du jour du Journal de Montréal, la vente s'est faite en dessous de la valeur municipale, je dois le dire. Là, ça veut dire que ça précède vente. Il n'y a personne qui vend une maison aussi belle que la maison de Mme Thibault dans les Laurentides à 500 000 $ sans être obligé de la vendre.
Non, c'était, ça valait au moins 861 000 $ Puis dans cet air très chaud dans le domaine de l'immobilier, on aurait pu aller chercher un million avec la surenchère, là.
Mais lui était pressé de vendre, tout le monde le sait, donc il s'est fait racheter à 500 000, en dessous de la valeur municipale, je le répète. Et donc là, M. Cloutier, Réal Cloutier, le conjoint de Mme Thibault, a réglé ses dettes, donc fin de l'affaire. Mais si je te parle de ça, c'est parce que parmi les choses les plus extravagantes, il y avait le fait que Mme Thibault, elle avait une fondation privée par laquelle elle ramassait des fonds pour payer de l'équipement sportif adapté aux handicapés. Sauf qu'elle utilisait sa résidence, elle organisait de fabuleux garden parties à tous les mois de juillet à Saint-Hippolyte, elle invitait des centaines de personnes, et le problème, c'est qu'elle se faisait rembourser toutes ces dépenses-là par le gouvernement fédéral. Mais une fondation privée, pour des objectifs privés, ça ne peut pas être remboursé par le gouvernement.
Et donc, vous et moi, dans vos taxes et impôts, là.
Ben, puis là, tu me demandais ta question, c'était ça, as-tu des exemples de factures? Ben, je vais te parler du fameux Garden Party du 9 juillet 2020. Pas 2020, 2000, excuse-moi.
2000.
9 juillet 2000, il y en a pour 69 000 $
Pour une fête d'une soirée, 69 000 $
Oui, 59 000 $ for one. Ah. Ici, je vais le lire en anglais, excusez-moi, parce que c'est des fonctionnaires fédéraux. Et là, tu as un fonctionnaire fédéral qui avise ses collègues. « Just to apprise you of the fact that with today's receipt of an invoice for 65,000 and 59,000 for one garden party, we are now officially in deficit of $143,000 out of capital budget. » Ça veut dire que les fonctionnaires disent, juste pour vous dire, gang, là, avec la facture qui vient de rentrer de 65 000 $ dont 59 000 $ pour un seul garden party, ben, on est dans le trou de 143 000 pour le budget de dépenses hors capital. Et là, ben, ces garden parties-là, vois-tu, j'ai une facture ici devant moi de 22 561 pour un service de traiteur pour 600 personnes le dimanche 9 juillet à Saint-Hippolyte. Ça, c'est la ville où se trouvait la résidence. J'ai ici un fournisseur qui fournit des grands plateaux, des plateaux croches, des boules de l'amitié, un ensemble de plumes et des bains d'oiseaux. Pour
un ensemble de plumes, des boules de l'amitié.
Un bain d'oiseaux, ça coûte 1411 $ ici, j'ai un piano de concert Steinway pour 1200 $ plus 900 $ de frais de livraison. Écoutez, dans cette boîte-là, là, on m'a mis des factures d'un style qu'on ne voit jamais. Je pense vraiment qu'il y a des fonctionnaires qui étaient très contents qu'enfin quelqu'un, puis probablement qu'il n'y avait que les médias qui étaient capables de le faire, parce que comme je vous dis, moi, il y a des gens qui m'ont confié par la suite qu'ils étaient au courant que ça allait pas bien, mais ils ont décidé de pas faire cette bataille politique-là. Alors, il y avait juste les médias qui pouvaient le faire, et on l'a fait. Mme Thibault a été condamnée à rembourser 300 000 $ et toutes les ventes d'actifs, elle s'est fait tout saisir. Hein? Mme Thibault est complètement ruinée aujourd'hui. Et là, Revenu Québec s'est tourné vers son conjoint à qui elle avait cédé la maison pour aller chercher la maison. Alors voilà, je dirais bien tout est bien qui finit bien, mais en même temps, on n'a pas retrouvé comme contribuable tout l'argent qui a été dépensé de façon questionnable par Mme Thibault, ça c'est certain.
Ben pas du tout, parce qu'au final, ce qu'on a appris avec le temps, c'est qu'elle avait réclamé des remboursements jusqu'à 700 000 $ pour des fêtes, des repas,
voilà,
des frais de voyage. La Cour du Québec l'avait condamnée à rembourser 300 000 au gouvernement fédéral et provincial. Oui, elle a fait 18 mois de prison. Mais rappelle-toi, Mathieu, plus que personne en fait, même on avait joué sur sa condition, son handicap, en disant qu'elle ne peut pas aller en prison, c'est une bonne personne. On avait tout tenté en cours.
Oui, on avait tenté, on avait même essayé, c'était complètement surréaliste, de dire l'argument comme quoi « the queen can do no wrong », c'est-à-dire la reine ou le roi ne peut pas faire d'erreur et donc ne peut pas être poursuivie pour un geste. Alors, Mme Thibault, parce que comme lieutenant-gouverneur, elle était représentante de la couronne britannique au Québec, avait essayé d'importer pour elle-même le concept d'immunité royale. Écoutez, elle avait presque fait rire d'elle en cours. On lui avait dit, non, désolé, madame, ça s'applique pas à vous, là. Vous êtes une fonctionnaire nommée, un titre, un poste honorifique, Mais le poste qu'on vous confie un jour, on peut vous le retirer, comme ça lui est arrivé d'ailleurs, et ça prouve que vous n'êtes pas un monarque, là. Et donc, elle avait tout essayé, mais finalement, ça s'était très mal terminé pour elle. Comme je vous dis, là, Mme Thibault, aujourd'hui, pour être bien franc, elle est dans une maison pour personnes âgées avec l'Alzheimer. Elle est probablement plus consciente de ce qui lui arrive en ce moment, mais voilà, elle a dû quand même tous ses actifs financiers, tout a été liquidé pour rembourser l'État au maximum. Et là, ben, c'était vers son conjoint, Réal Cloutier, là, que c'était tourné Revenu Québec.
Je te questionne, voilà. Mathieu Boivin, tu es journaliste. Je te demande de faire peut-être un commentaire. Vas-y, pas si tu n'as pas envie, mais au 418-971-1021, les gens nous écrivent sur Twitch aussi. Entre autres questions, quelqu'un dit, tu connais bien le judiciaire, les droits et tout ça. Quelqu'un nous écrit, la question pour moi, c'est si, par exemple, je faisais la même chose, j'irais en prison, non?
Bien, évidemment, la Cour, elle va jamais dire « tu vas en prison ou pas », elle va regarder les circonstances, elle va regarder qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé aussi, comment les différents acteurs avec lesquels tu étais en transaction se sont comportés aussi. Tu sais, il n'y a pas un cas qui est identique. Mais Mme Thibault a effectivement été condamnée à la prison, là.
Pour 18 mois.
Elle l'a purgé à domicile,
J'ai l'impression que cet auditeur-là se demande si aux politiques ou dans des rôles de prestige et prestigieux, comme disaient certaines, il n'y a pas un genre de passe-droit par la position ou encore une sentence un peu moins lourde.
Bien, parlez-en à André Boisclair. Il est en prison, Boisclair. Je comprends que les gens se disent qu'il y a deux justices, là,
oui.
Mais dans le cas de Mme Thibault, dans le cas d'autres politiciens, André Boisclair notamment, il y a de la prison là, quand tu fais des choses pour lesquelles tu es trouvé coupable. Mme Thibault l'a purgé à domicile. C'est probablement moins désagréable qu'en cellule, mais elle a quand même été contrainte là, comme le voulait la justice. Là.
En terminant, Mathieu, ça a remis en doute énormément de postes au sein du provincial, du fédéral, encore énormément de critiques. Maintenant, on épluche beaucoup plus les rapports de dépenses. On en cache certains aussi sur les différents paliers avec le caviardage de demandes d'accès à l'information. Mais ça a changé du tout au tout l'œil qu'on avait sur le poste de lieutenant-gouverneur ou encore de lieutenante-gouverneur. Hein?
Oui, il y a eu des changements qui ont été très substantiels, qui ont été apportés effectivement. L'Assemblée nationale s'est donné un droit de regard plus étroit sur les dépenses du lieutenant-gouverneur. Mais encore une fois, c'est pas du côté du Québec que se trouvaient les dépenses les plus litigieuses. C'est du côté du gouvernement fédéral. Alors oui, on s'est un peu donné, l'impression qu'on avait agi puis que ça pourrait plus jamais arriver, mais il va quand même falloir continuer à regarder du côté fédéral. Mais évidemment, tous ceux qui ont succédé à Mme Thibault depuis qu'elle a été évincée font assurément beaucoup plus attention, mais beaucoup plus attention. Parce que, évidemment, là, cette histoire-là laissait des traces dans l'imaginaire.
Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu Boivin, journaliste à Nouveau Info et ancien correspondant parlementaire au Journal de Montréal. Ça a été un plaisir de te parler aujourd'hui.
Salut Pascal, bonne journée à tout le monde.
Félicitations à ces journalistes-là qui décident d'éplucher un petit peu plus que la normale des dossiers qui arrivent entre leurs mains. Il y a quelque chose, c'est une critique des fois que je fais ou encore un questionnement que je pose en onde parce que je sais qu'il y a un genre de courant de tout le monde est soumis à l'opinion politique de son employeur au privé, puis même au public, ça a fait jaser dans les dernières années. Il n'y a plus l'aussi belle jambe journalistique que l'on avait dans les dernières décennies. Connaissez-vous vos journalistes favoris? Y a-t-il des gens que vous suivez comme vous suiviez auparavant? Quelqu'un qui travaille dans la nouvelle 88-971-1021 qui vous permet encore d'espérer qu'on soit capable de faire des dossiers du type. L'affaire est que ils sont d'une importance capitale. Assurément, je suis biaisée, mais je les connais au quotidien, je vois leur travail, mais ça rentre une calique de bonne job, oui. On avait le temps auparavant, en tant que journaliste, de s'attarder sur des dossiers comme ça. C'était un petit peu moins de la nouvelle qui devait aller très, très vite. Et ça, il ne faut pas que ça se perde. Comment ça ne se perd pas? C'est que vous soyez là, vous soyez dans l'électorat, vous soyez auditeur, vous soyez... Et c'est super important parce que c'est le chien de garde, en fait, de vos finances. Un Nicolas Gagnon à la Fédération canadienne des contribuables qui parle dans Marceau le midi, il s'attarde à ça aussi de façon quotidienne, mais Il faut encourager ces enquêtes-là. Il faut surtout déplorer, je vous le jure, que dans les dernières années, le caviardage politique des demandes d'accès à l'information font aucun sens. On les a exposés parfois là, publiquement en tant que journaliste, des genres de retours, en fait. Ils ont 30 jours habituellement quand tu fais une demande d'accès à l'information. Il faut qu'elle soit extrêmement précise parce qu'ils jouent sur les mots. « Ah, ben vous ne m'aviez pas demandé la page 34, mais quand tu n'as pas aidé qu'il y a la page 34 parce que justement tu demandes à avoir de l'information, ben ça joue un peu sur ce que tu vas récolter comme contenu. » Mathieu Boivin nous le disait très bien. Il avait fait des demandes au provincial parce que c'était la lieutenant-gouverneure du Québec. Donc, il avait dans sa tête envie d'éplucher les rapports de dépenses au provincial. Quand il a fait la demande initialement, on lui a rien fourni, ou presque, des fleurs, des petites affaires. Il a fallu que quelqu'un lui pisse dans l'oreille, d'où l'expression, pour qu'il aille faire cette demande-là au fédéral. Et là que ça ouvre une boîte de Pandore extrême. Sans information de l'interne et sans se douter au fédéral, c'est là où il y avait la manne d'or dépensée par Mme Lise Thibault. Ça prend des informateurs et vous l'êtes au quotidien. Si vous pensez que vous n'êtes pas un acteur de l'actualité avec tout ce que vous vivez dans vos vies professionnelles ou personnelles, peu importe le quartier où vous vivez, l'endroit où vous récoltez de l'information, vous l'êtes. Quand on dit qu'on fait les émissions avec vous, c'est un des modèles par excellence en regardant le genre de dossier d'enquête qui sortent. Et Mathieu Boivin en avait fait toute une, cette fois-là, une bonne pêche. Il n'avait pas broché, pêché le têtard, je vous jure qu'il avait pêché le brochet ou le gros thon. Puis ça, on est toujours très, très heureux de voir ces dossiers-là être finalisés. Bien sûr, on ne récupérera jamais le total qui avait été dépensé par Mme Thibault. 700 000 $ au moins là, pour des fêtes, des repas, des frais de voyage. Je vais me rappeler du bain d'oiseau là, que Mathieu Boivin nous a jasé dans les dernières minutes pour un bon bout, mais 700 000 $ réclamés pour des fêtes, dont une qui avait coûté 59 000 $ pour une seule soirée. Je vous rappelle, la Cour du Québec avait condamné Mme Thibault à rembourser 300 000, 18 mois de prison. Et maintenant, ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est qu'on a terminé cette saga-là avec la transaction de la maison de Lise Thibault et son conjoint qui a été finalement vendue. C'est 20 ans après l'enquête du Journal de Montréal. Et ça aussi, c'est problématique de voir que ça a pris 20 ans avant d'être capable de remettre l'argent des contribuables dans les coffres. Quelle perte, hein? Je veux dire, le 500 000 qu'on a remis à la toute fin ne vaut pas du tout ce qu'il valait auparavant. Merci d'être là à leur CV. On revient dans un instant avec Mathias, notre collègue pour la revue d'actualité. Puis on salue tous les journalistes qui travaillent très fort et vous, petit enquêteur du quotidien. Puis je ne le dis pas d'une manière péjorative, mais pas pour une seconde. Le clan de la savate à boulevard 102.1, électrique à leur CV. On revient. Ça fait encore réagir, en fait, la discussion qu'on vient d'avoir avec le journaliste Mathieu Boivin, maintenant chez Nouveau Info, puis ancien correspondant parlementaire au Journal de Montréal. Vous aviez des choses à dire, entre autres. Ouais, bien là, la prison 18 mois qu'on avait donnée à Lise Thibault après tout ça, ça ressemble à une punition qu'on donne aux enfants. Quelqu'un d'autre qui dit, bien voyons donc, c'est vrai, on avait oublié cette affaire-là. Puis finalement, plus ça change, plus c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui avaient leurs commentaires à faire là-dessus. Puis effectivement, on se rappelle qu'à la gang, on sait tout, comme disait André Arthur. Oui, c'est vrai et ça peut encore l'être autant que ça a été ça dans la dernière décennie. On ne sait pas tout en ce moment parce qu'on n'a pas eu le temps de l'aborder, mais dans la revue d'actualité d'aujourd'hui, Mathias s'est mis le nez. Salut Mathias.
Salut, ça merci. Va bien?
Ben oui, ça va très bien toi aussi.
Oui.
Merci d'être là, puis je sais que tu suis de près tout ce qui se passe chez Air Canada. Hier, on apprenait qu'on forçait les grévistes à retourner au travail, donc les agents de bord. On jugeait la grève illégale. Mais ça fait un brouhaha. On pensait qu'on allait avoir un retour tranquillement, la reprise graduellement des vols. Ça n'a pas été ça pendant la journée. On s'est opposé au niveau des agents de bord et du syndicat. Cependant, ce qu'on apprend ce matin, c'est que l'entente conclue avec les agents de bord est faite. Et là, officiellement, on reprend graduellement les vols.
Oui, exactement. Les vols qui vont reprendre graduellement à partir de ce soir. On avait mis sur pause des activités jusqu'à 16 heures du côté d'Air Canada aujourd'hui. Donc, c'est une entente de principe qui est pour l'instant trouvée. Les membres des syndiqués devront voter pour cette entente de principe-là. Mais pour l'instant, ça augure bien. Dans un communiqué, le syndicat affilié au syndicat canadien de la fonction publique, donc celui qui représente les des agents de bord a déclaré que cette entente de principe met fin au travail non payé. Donc, c'était vraiment ça le cœur du litige. Donc, si on met fin à ça du côté d'Air Canada, normalement, les agents de bord devraient voter oui pour l'entente. Donc, l'entente de principe, ce conflit-là semble sur le point d'être réglé. Très bonne nouvelle pour tous les voyageurs canadiens. Le ministre Christian Dubé a fait un point de presse, ça fait quelques instants, là, à 9h30, à propos du projet de loi 106. Le projet de loi 106 qui veut un peu changer la façon que les médecins sont payés puis la façon qu'ils rencontrent leurs clients également. On a fait un point de presse pour faire une mise à jour par rapport aux discussions qui ont présentement lieu entre les différentes fédérations, soit la Fédération des médecins spécialistes, la Fédération des omnipraticiens. Je me suis mêlé. Puis du côté de Christian Dubé, on a fait ce point de presse-là, puis on dit on garde le cap, on garde le projet de loi 106, il est là pour rester. Tandis que les deux fédérations disaient que le projet de loi 106, on ne le veut pas, on ne le veut pas du tout. Et du côté de Christian Dubé, on continue. On dit qu'on est ouvert, mais on garde sensiblement les mêmes demandes. On dit du côté des médecins spécialistes que les chirurgies doivent être effectuées en moins d'un an pour 99% des Québécois. On dit du côté des médecins de famille. 25% de la rémunération sera avec des indices de performance. Ce qu'on dénonce du côté de la fédération en disant qu'ils craignent que ça réduise le temps des rencontres et la personnalisation. Donc, du côté de Christian Dubé, on continue un peu d'essayer. Le point de presse d'aujourd'hui, de ce que j'ai senti, c'est purement de dire « Hey, on n'est pas des méchants dans l'histoire. » Je trouvais que c'était un peu ça. Puis c'est une négociation qui continue de brasser puis qui va continuer à faire du bruit dans les prochaines semaines.
C'est aussi très émotif parce qu'il faut y penser. La santé, tout le monde en a une. Quand ça commence à mal aller pour soi ou pour des proches, c'est là où on vient un peu émotif dans tout ça. Puis c'est vrai que le temps de consultation avec un médecin de famille, entre autres, ou n'importe quel personnel de la santé, quand ça vient ton tour au Québec, là, puis t'as attendu, puis t'étais inquiet, puis... Tu le sais là, que tu ne files pas comme d'habitude, ou tu le sais que ton proche ne file pas comme d'habitude. Quand vient ton temps, tu veux qu'on le prenne le temps. Tu veux te sentir humain. Tu veux. Puis ce qu'on se fait dire de plus en plus, c'est la façon un peu froide pour certaines personnes de se faire annoncer des problématiques de santé difficiles et ou tragiques et ou paralysantes. Force est d'admettre là, qu'en ce moment, en santé, il faut tellement que ça aille vite, qu'on est rendu une machine à saucisses. Puis ça fait en sorte que c'est un peu dépersonnalisé. Puis s'il y a un des endroits où il faudrait justement avoir des gens qui vont au combat avec une empathie, avec une humanité, c'est en santé. Puis là, on demande d'aller de plus en plus vite à tout le monde. On demande de prendre les bouchées doubles. Il y en a, par contre, qui doivent plus travailler si on veut avoir un système de santé qui roule mieux. Est-ce que tu peux l'obliger à certaines personnes? Des gens vont dire oui, quand tu es au privé, ton employeur, c'est le gouvernement, donc tu ne devrais pas agir comme si tu étais un agent libre. Mais comment ça a été implanté depuis quelques années? Tu es un peu agent libre. Ça va être dur. Le paquebot de la santé, il est énorme. C'est toujours difficile de faire des changements. Plusieurs ministres, plusieurs personnalités politiques ont tenté de faire des changements. C'est jamais facile.
Tu parles du paquebot de la santé qui est gros, puis des fois, c'est difficile. Eh bien, je pense que Christian Dubé va l'avoir difficile sur un projet d'informatique prochainement, là. Le développement du projet de système d'information des finances, de l'approvisionnement et des ressources humaines en santé devait coûter initialement 202 millions. Radio-Canada nous apprenait que finalement, ce projet-là coûterait autour de 400 millions, soit le double. C'est énorme. Gros travail de Thomas Gerbet dans Radio-Canada, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Par contre, ce que Thomas Gerbet nous apprend ce matin, c'est que selon des sources de Radio-Canada, le projet va coûter 400 millions. OK, c'est beau, ça, grosse augmentation de coûts. Mais qu'après sa phase de développement, il coûtera 1,2 milliard de dollars sur 15 ans pour le faire fonctionner, pour l'exploitation du projet. Donc, 1,2 milliard, je tiens à rappeler, c'est encore plus d'argent que le projet Sacré, qui fait l'objet d'une commission d'enquête présentement. Puis cette information-là qui a été tentée d'être cachée par Santé Québec à Radio-Canada, justement, qui ont finalement pu mettre la main dessus. Donc, ça, c'est un autre dossier.
Ça, c'est un des points cruciaux, en fait, de tout ça. Là. Il y a plusieurs points. Ils sont cruciaux, mais celui-là, pour moi, est prioritaire. Et ça va avec ce qu'on vient de jaser. Avec le contexte Lise Thibault, avec l'enquête qui a été faite, qui nous a permis d'aller récupérer des fonds publics payés de votre poche par des gens qui en dépensaient sans compter. Quand tu fais une demande d'accès à l'information, tu vas aller chercher une saisie d'information. Le fait que c'est caché. Qu'est-ce qui se passe actuellement au gouvernement? Demande à des journalistes d'il y a 20 ans, c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Ça n'a jamais été simple. point. Mais c'était plus simple. Et maintenant, les documents qui avaient ardé, vous vous demandez pourquoi on en fait une nouvelle une fois de temps en temps. Mais si tu fais une demande à l'accès à l'information, puis tout ce qui est barré, t'arrives entre les mains, puis finalement, ça ne te servit à rien. Tu dis, on est vraiment rendu là. Et ça, dans le fédéral, dans le provincial et le municipal, ça a été constaté que c'est de plus en plus des cachettes. Il ne faut pas se rendre là. Ils ont poussé du côté de Radio-Canada, par chance. Mais encore là, est-ce qu'on a tous les éléments en main? Moi, je suis forcé d'admettre que je pense que non.
Probablement pas. Et en parlant du fiasco SAC-CLIC, la commission Gallant se poursuit aujourd'hui. Et c'est l'ancien attaché de politique de François Bonnardel, Alain Généreux, qui sera appelé à témoigner aujourd'hui. Lui, il a été responsable du dossier de la SAC entre 2019 et 2022. Donc, son témoignage va être très intéressant. Hier, on a eu droit au témoignage d'anciens ministres des Transports du côté du gouvernement libéral, Laurent Lessard et André Fortin. Je termine avec la rencontre entre Trump, Zelensky et les dirigeants européens qui avait lieu hier. On a eu vraiment une rencontre très positive, là, beaucoup plus positive que beaucoup de personnes le pensaient. On a eu du
est-ce
côté...
vrai fondamentalement ou est-ce une image? Là, on peut se poser la question. Mais ça a été beaucoup plus positif que la dernière.
Exact. Ah oui, ça, c'était pas dur à battre, mettons.
Non.
Du côté des États-Unis, on a donné des garanties de sécurité de l'Ukraine. On a même dit que les États-Unis seront impliqués dans la sécurité future de l'Ukraine en cas d'entente. Alors, on a appelé le président Vladimir Poutine directement après l'entente et Vladimir Poutine s'est dit prêt à rencontrer Volodymyr Zelensky. Ouais. Donc, Donald Trump qui travaille présentement à une rencontre entre les deux présidents. On nous dit que les deux présidents ukrainiens et russes se rencontreraient tout d'abord seul à seul et par la suite une deuxième rencontre aurait lieu cette fois-ci avec Donald Trump.
L'effet tampon des fois d'une tierce partie est très, très important dans ce cas-ci. Poutine-Zelensky dans la même pièce en solo, probablement avec, bien sûr, leur gamme d'acolytes là, au niveau politique. Ça me surprendrait fort qu'ils soient dans la même pièce au même moment, seulement les deux. Viens me chercher une question humaine assez profonde parce que ces deux dirigeants de pays qui se font la guerre, qui mutilent leurs soldats, qui envoient au bat finalement de la chair et pas nécessairement l'humain, le père derrière, le mari, le fils. Et d'être complètement déconnecté comme ça, comme dirigeant, d'être dans la même pièce, c'est fondamentalement émotif. Les gens qui ont perdu des proches depuis maintenant plusieurs années dans cette guerre-là et qui vont voir leurs deux dirigeants, oui, vouloir cesser le conflit, mais être dans la même pièce quand eux ont été protégés, quand eux ont été choyés de la vie avec de somptueux repas dans certains cas, des rencontres, une paix d'esprit, semi-paix d'esprit. Quand même, j'ai l'impression qu'ils ont pu avoir peur pour leur vie à un moment ou à un autre et même encore, mais quelqu'un texte polonium dans les drinks. Mais moi, ça... fondamentalement, la question humaine me vient en tête quand on parle de ce genre de rencontre-là. Mais bon, émotivité déclarée et faite. Mathias, vous avez reçu en terminant Sam Ahmad ce matin à l'émission dans Boulevard Against le matin. J'aimerais faire entendre deux, trois petites choses. La première, le ton de la conversation a été, somme toute, assez pertinent. Je pense que pour l'actualité municipale, on va en voir... de toutes les couleurs, est-ce que c'est le bon ton? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez pour la course au municipal dans les prochaines semaines? Avez-vous envie de les voir se confronter sur la forme ou sur le fond? Là, on a l'impression que la forme est plus importante et je vous donne une idée parce que Sam Ahmad a parlé du maire Marchand, comme quoi il est bien, bien, bien stressé là, en ce moment de revenir après ses vacances, mais il y a un petit quelque chose là-dedans qui nous parle de la forme.
C'est une autre menterie, c'est un autre jeu sale, parce que je l'inviterai, il viendra à nos réunions d'organisation, je vais l'inviter, qui vient voir nos réunions d'organisation. En passant, demain, on annonce, la semaine prochaine, on va annoncer d'autres candidats, on a la majorité de nos candidats. Peut-être qu'il en manque une, là, puis une autre affaire, on refuse actuellement, on a refusé des candidats. Alors là, qui s'occupe de ses affaires, là, il revient de vacances, il est stressé, pauvre petit, mais là, il faut qu'il reprenne... puis laisse la saleté de côté, puis qu'il fasse une bonne campagne. Ouais. C'est ça, les gens de Québec attendent de lui et de nous.
Ça, c'est la forme, c'est le ton. C'est pas la première fois qu'on entend Sam Ahmad avoir ce ton-là face à Bruno Marchand. Et Bruno Marchand, souvent en entrevue, nous laisse un peu le présage que ça va se dérouler comme ça. Mathias, accompagne-moi dans la suite parce que les négociations au RTC, ça va pas nécessairement très bien. L'ombre d'une nouvelle grève pour la rentrée plane au-dessus de notre tête. Sam Ahmad vous en a parlé, a donné un peu plus de détails sur sa négociation à lui avec le RTC.
Oui, en gros, bon, là, Bruno Marchand, il est sorti hier, il a dit, écoute, nous autres, on ne va pas plier devant les demandes du
RTC. On reste droit.
On reste droit, on continue comme ça.
Ce ne sont pas des demandes légitimes, selon le maire.
Exactement. Puis, tu l'as dit, les menaces de grève commencent à peser. Moi, comme j'ai dit tantôt, selon moi, en fin de semaine, la grève va être annoncée pour cibler le 2 septembre la rentrée universitaire, si on trouve aucune entente. Du côté de sa maman, d'ensemble, de dire, ah, moi, si j'avais été à la place de Bruno Marchand, on aurait eu des belles négociations.
Donc, il aurait aimé gérer les négociations du RTC?
Ah, il dit qu'il les aurait mieux gérées.
J'avais aimé ça, être le maire pour négocier, parce que ça sera différent ce qu'il fait. Tout simplement ce que je peux vous dire. Ben, j'ai négocié déjà des conventions collectives, la construction, des employés de l'État, etc. Alors, faut avoir respect, mais en même temps, quand on négocie, on demande. Et on impose et on demande. Ce qu'on fait pas maintenant. On répond, puis on les laisse faire du mal aux citoyens. Parce que le festival d'été, là, c'était un fiasco là, de gestion de la ville. Là. Mm-hmm. Ils voyaient la grève arriver. C'est sûr que c'était prévu. Qu'on n'a rien pris comme mesure pour diminuer l'effet de cette grève.
Et il a donné un peu plus de détails sur sa négociation à lui avec le RTC.
Oui. Donne un exemple. Quand c'est la première convention collective, quand vous la signez et vous donnez toutes, c'est très difficile après de négocier après. Deuxièmement, quand vous donnez une grosse augmentation à un patron, ben là, les employés vont dire, gars, t'as donné l'augmentation là, tu devrais en donner aussi. Alors ça, c'est des basiques de négo qu'on devrait faire attention lorsqu'on négocie. Et il y a plein d'autres éléments, mais on va arrêter là pour le moment. Faut demander parce que c'est give and take. Il y a des gens qui méritent d'avoir une augmentation de salaire. Oui, c'est vrai. Ils travaillent fort, oui. Mais aussi, tu vas m'en donner pour mon argent, l'argent de mes citoyens. C'est pas mon argent, c'est l'argent des citoyens. Donc, faut en donner aussi. Alors, c'est comme ça qu'on négocie. On n'ira pas une sens, ah, on a donné des 4-4-4-3-3, je pense. Et après ça, ben OK, tout le monde, let's go, tout le monde, puis on négocie rien d'autre que ça.
C'est complexe, puis assurément, ben ça plane au-dessus de notre tête, un genre d'épée Damoclès. Faudrait pas qu'on revienne avec une rentrée où il n'y a pas de transport en commun, qu'il n'y a pas de service au niveau du RTC. Ça paralyse tout le monde, même les services essentiels. Et ça va ramener cette discussion-là, ce débat-là, à savoir, est-ce que le transport collectif peut, à un moment donné ou à un autre, devenir un genre d'essentiel?
Ben, faudrait du moins. Là. Il y a des travailleurs qui dépendent de ça. On l'a vu, il y a des personnes qui dépendaient de ça pour aller chercher leur nourriture à la banque alimentaire. Puis c'est pas pour rien qu'on cible la rentrée scolaire. Les étudiants à l'université, ça dépend énormément
les gens qui travaillent en
du
santé,
transport en commun. Donc.
Il y a eu une dernière grève il y a quelques années. Il y avait des gens qui avaient de la misère à aller du côté de leur emploi en santé. Donc, il y avait des opérations qui étaient retardées parce qu'on n'avait pas assez de personnel. Faut pas qu'on arrive à ça. D'après moi, c'est un besoin essentiel en société. Merci, Mathias.
Ça fait plaisir.
À demain.
À demain.
Dans l'émission du matin avec Jeff Fortin et Max Larouche, mais également ici à leur CV sur l'heure de 10:30. Peut-être terminer avec une nouvelle qui, sous la plume d'Alain McKenna, est venue me chercher dans la presse aujourd'hui. Ça va probablement changer la vie de certaines personnes, mais les propriétaires, ben, ici au Canada, là, d'iPhone, d'iPad, de Mac, je sais, vous dites une secte, mais quand même, on est quelques-uns à en avoir, vont pouvoir réparer eux-mêmes leurs appareils. Il va y avoir un lancement de programme de réparation chez soi d'Apple. C'est énorme parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas cette possibilité-là. Vous le savez, puis même qu'Obsolescence programmée, on se disait, ouais, jusqu'à un moment, on va essayer de réparer notre cellulaire, mais on va se dire que c'est impossible ou ça va coûter le même prix que l'appareil en soi. Donc, oui, on va donner maintenant accès à des pièces, à des outils et à des manuels officiels, tout ça en français. Donc, on a examiné et annoncé du côté d'Apple cette demande-là et ça a été approuvé, donc l'expansion des services de réparation au Canada. Donc, on va offrir plusieurs options aux consommateurs pour l'entretien des appareils. Géant technologique qui déploie deux programmes déjà implantés, déjà offerts ailleurs. Le programme de réparation en libre-service, ça, c'est vous et moi, là, destiné aux particuliers, puis un programme aussi de distribution de pièces d'origine pour les ateliers de réparation professionnelle. Ça a pris du temps. Le Canada est le 34e pays à bénéficier de ces services-là. Mine de rien, là, Apple, c'est un des fabricants les plus importants dans ce genre de petits logiciels-là qui est votre cellulaire. Mais les produits ont la durée de vie la plus longue grâce à un soutien logiciel. Et maintenant, bien, vous allez pouvoir faire une réparation à la maison. Est-ce que ce sera facile? Là, je ne peux pas vous dire. Par contre, vous allez avoir la chance de le faire. Et est-ce qu'on est d'un retour, justement, puisque les gens de métier, de réparateurs, tranquillement, pas vite, s'éteignent? Est-ce qu'on est dans un genre de retour du type? Bien, la question se pose. Est-ce que ça vous intéresse? Pensez-vous que vous allez avoir la possibilité de le faire? Moi, j'ai l'impression qu'à un moment ou un autre, si j'essaie de réparer mon cellulaire, ça devient juste des pièces détachées, puis il n'y a rien à faire. C'est super complexe habituellement, mais bon, on affirme que 80 % de la population canadienne va être capable, à moins de 30 minutes, d'une solution de réparation. 30 minutes! Que ce soit dans une boutique Apple, un réparateur professionnel ou encore le faire soi-même à la maison. C'est pas rien. Je n'ai pas très confiance en moi par rapport à ça. Là. On dirait que tout est de plus en plus petit et plus difficile. Mais bon, il y en a qui vont se mettre à gosser là-dessus puis peut-être travailler sur les cellulaires de leurs amis. Et petite nouvelle qu'on va certainement développer dans Marceau le midi dans un instant parce que c'est la fin de leur CV aujourd'hui, mais acquitté en raison des lacunes de l'enquête policière, c'est dans Le Soleil sous la plume de Judith Demeul, collaboratrice judiciaire ici dans l'émission de Gravel. C'est vraiment particulier, mais crime violent. Il y a un motocycliste qui, dans une chicane sur la route, a asséné un coup de poing à un homme qui était au volant de sa voiture. Ils sont sortis, se sont chicanés. L'homme roulait dans la voie de gauche. Ça ne faisait pas l'affaire du motocycliste. Il a essayé d'envoyer des signes. On s'est tassé sur le côté. Puis il y a eu rififi, mais très violent, là, plus qu'un rififi. L'homme qui s'est fait frapper par le motocycliste est tombé au sol. Il a perdu connaissance. Il a saigné à la tête, à la bouche, les oreilles. Ambulance demandée sur les lieux. Et on a filmé le tout. L'affaire, c'est qu'on a perdu les preuves. Donc, les policiers de la Sûreté du Québec qui ont demandé une parade d'identification photographique pour savoir s'il avait arrêté le bon suspect. Et plus tard, le dossier a été perdu. Donc, en cours de procès, les parties ont appris que les photographies originales ont été perdues par le corps policier. Plusieurs vérifications. Dossier resté introuvable depuis juillet 2023. Revirement de situation dans cette enquête-là. Et c'est pas rien, là, on s'entend. C'est très important de savoir ce qui se passe, mais le plaignant a dit garder un souvenir flou de l'événement. Il a perdu la carte après le coup de poing. Sa conjointe, elle, qui était dans l'habitacle de la voiture aussi, a vu que le bas du visage de l'homme en question, environ 10 secondes. Donc, c'était pas une preuve assez solide. Et puisqu'on avait perdu les photos, ben terminé. On a acquitté la personne qui a asséné un coup de poing pour violence et au volant. On en reparle avec Marceau dans un instant. Merci d'avoir été dans l'heure CV. À tout de suite dans Marceau le midi.
Ta voiture est comme pas neuve, mais t'en veux une neuve? On peut reprendre ta comme neuve et même t'en trouver une neuve. Pour une voiture, c'est Charlesbourg Toyota. Évalue ta comme neuve au comme-neuve.com.
Besoin de nouvelles lunettes? Bonne nouvelle! L'offre deuxième paire en cadeau est